Bonjour à toutes et tous, vous écoutez le podcast First Print spécialisé sur la bande dessinée américaine pour un épisode complètement hors série et même je dirais horror série puisqu'il faut trouver un petit peu un jeu de mots pour justifier tout ça. Vous savez si vous nous écoutez de façon régulière que je suis un énorme mordu de cinéma de genre. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai le plaisir de vous proposer cette interview, cette rencontre entre deux réalisateurs que j'affectionne particulièrement. Julien Maury et Alexandre Bustillo pour la sortie de leur nouveau film qui s'appelle Le Mangeur d'âme, un polar très très brosson qui sera de sortie en avril. Et normalement, ce podcast sera aussi hébergé par les équipes de Cinématrack que je remercie pleinement, histoire que tout le monde puisse en profiter en plus de nos auditeurs réguliers. Alors déjà, Julien Alexandre, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour juste que les gens identifient votre voix, parce que ce sera en podcast, est-ce que vous pouvez juste vous présenter brièvement tous les deux ?
Alors, bonjour, je suis Alexandre Bustillo.
Voilà.
Et moi, c'est Julien Maury.
Très bien. Bah, alors, ça fait quand même pas mal de temps que vous bossez ensemble maintenant. On n'a pas forcément le temps de revenir sur les tout débuts de votre carrière, mais justement, puisque depuis À l'intérieur, qui était votre premier film, vous avez continué de travailler ensemble tout le temps. En fait, je ne crois pas que vous ayez fait de projet en solo depuis. Qu'est-ce qui fait que vous restiez ensemble à chaque fois ? Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien entre vous deux ?
Bah, l'amitié, déjà. Non, le fait que... avec Julien, donc ça fait presque 20 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Là, c'est notre 7e long métrage. Et en fait, on ne se pose même pas la question, c'est naturel. C'est-à-dire que c'est mon meilleur ami, Julien. Donc, on s'est mis à travailler ensemble. Déjà en se disant, ça serait super. C'est plutôt agréable de bosser avec ses amis. Surtout dans un milieu où finalement, tu bosses avec beaucoup de monde, mais tu peux vite te retrouver seul finalement. Et voilà, donc tu vois, on n'a absolument pas du tout envie de changer ça. Moi, je ne me vois pas du tout faire du cinéma sans Julien, en tout cas. Et toi, je ne sais pas. Hein.
Est-ce que c'est réciproque ou est-ce que c'est une réciproque ? Est-ce que ce n'est pas une relation à sens unique ? Je m'imagine que non. Hein, mais...
Non, je garderai le silence sur cette question.
Tu me parleras qu'en présence de ton avocat. On arrive quand même avec Le Mangeur d'âme sur un polar. Et j'ai vu, de toute façon, en fait, ce qui est un peu chiant, c'est que dans le dossier de presse qu'on nous a fourni, en fait, vous avez déjà répondu à toutes les questions les plus intéressantes. En fait. Mais sur le fait de changer un petit peu de tonalité, puisqu'on vous a quand même connu beaucoup pour de l'horreur et de l'horreur même hardcore au tout début. Là, vous êtes dans un polar quand même très sombre. Mais c'est un registre sur lequel, en fait, on vous connaît un petit peu moins. Est-ce que vous pouvez un peu remonter à l'origine de ce projet ? Qu'est-ce qui vous a séduit quand on vous a proposé justement cette adaptation, qui en plus est l'adaptation d'un roman, donc un film qui ne sera que le second que vous n'avez pas écrit
C'est ça. Ouais, généralement, avec Julien, on écrit nos scénarios, ce qu'on écrit tous les jours. On essaie de donner un maximum de chance à nos idées. Donc, on écrit. C'est effectivement sur nos 7 films, le deuxième après Les Heures Fesses qu'on n'a pas écrit. Donc, c'est une commande, hein. Mais en fait, le producteur Fabrice Lambeau, avec qui on avait déjà travaillé sur Aux yeux des vivants, est venu nous voir un jour en nous disant qu'il avait acheté les droits du roman d'Alexis Leipziger, qu'il avait déjà fait écrire une première version du scénario, et donc nous a fait passer le roman et le scénario en nous disant « Est-ce que ça vous brancherait de le réaliser ?» Lisez-le d'abord, voir si ça vous plaît, parce que justement, c'est un peu différent de ce que vous faites d'habitude. Mais avec Julien, nous, on n'est pas non plus... On est fous de films d'horreur, hein. On n'est pas non plus sectaire au point de dire « Ah non, si c'est pas de l'horreur, on lit pas. » Tu vois, à titre d'exemple, pendant longtemps, notre deuxième film a failli être un western qu'on a développé aux États-Unis avec Greg Zeller avant qu'il soit connu avec Bone Tomahawk. Mais parce que justement, le scénar était génial. Et donc là, c'était aussi un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a lu le livre et le scénario et on s'y est retrouvé. C'est-à-dire que nous, ce qui nous importe avec Julien, c'est pas forcément le fait de changer de genre, mais de rester cohérent, en fait. C'est-à-dire que être cohérent avec soi-même, c'est déjà assez dur. Alors, être cohérent à deux, ça peut l'être encore plus, même si on s'entend très, très bien. Et nous, ce qui nous tient à cœur, c'est d'avoir une filmographie cohérente. Tu vois, qu'on regarde après, qu'on ait une vue d'ensemble sur le truc en se disant qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est pas la question, mais qu'on se dise oui, au moins, c'est cohérent. Et ça, c'est très important pour nous. Tu vois, qu'on soit pas... en mode opportuniste, tu vois. Pour nous, c'est pas un choix opportuniste, c'est un choix de cœur, hein, le Mangeur d'âme. Car effectivement, on aurait pu avoir l'idée de cette histoire sombre qui, effectivement, braconne sur les terres du fantastique sans y entrer vraiment de plein pied. Mais c'est aussi pour ça que ça nous plaisait, tu vois, parce qu'on abordait un nouveau genre qui est le thriller, le polar noir, mais tout en gardant vraiment à pied dans ce qu'on aime, c'est-à-dire on n'est pas dans du polar ultra réaliste façon, je sais pas, La Nuit du 12, par exemple, où tu vois, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. c'est pas une critique sur le film, hein. C'est un polar réaliste, on va dire. Et là, ce qu'on aimait, c'est qu'il y avait une vraie ambiguïté tout le long du film, de façon assez subtile, et c'est pour ça que ça nous a séduit, tu vois. Donc voilà, quoi.
Julien, c'est quelque chose, il y a quelque chose, un élément qui t'a plu dans le roman et dans le script quand vous l'avez lu, parce que c'est quelque chose que vous, c'est un bouquin que vous ne connaissiez pas forcément avant. Qu'est-ce qui vous a séduit en fait?
Bah en fait, on connaissait pas le roman, on l'a découvert là, et puis Alexis Lebsker est un plutôt jeune romancier. Mmh. En fait, ce qui nous a plu, c'est que, au-delà du fait que c'était excitant pour nous de se fondre dans l'univers d'un autre et d'essayer de le mixer avec le nôtre, et donc d'aller vers le thriller, vers le film policier, qui est un genre qu'on n'avait jamais abordé avant. En fait, il y avait des thématiques dans le roman qui nous parlaient. Et des thématiques qu'on a aussi déjà abordées dans nos précédents films, comme vraiment la fin de l'innocence, et avec une vraie mélancolie très prégnante dans l'histoire, et portée par des personnages qui sont pas du tout manichéens, avec des personnages assez ambigu, et alors qu'ils le sont moins dans le roman que dans le film, et donc c'est quelque chose qu'on a accentué, qu'on a vraiment creusé, et donc en fait c'est un cocktail, et puis surtout c'est un roman qui est écrit comme pas mal de romans contemporains, c'est-à-dire que c'est des romans qui se lisent très bien, très facilement. C'est ce que les Américains appellent des page turners, et donc avec des chapitres courts, avec un cliffhanger à la fin de chaque chapitre, et donc ça te maintient en haleine, et c'est le genre de bouquin que tu dévores. Et donc il y avait aussi un petit côté défi de se frotter à une écriture comme ça et de se dire tiens, c'est marrant parce que en film, tu peux pas te permettre ce genre de choses, et donc d'être toutes les 10 minutes de faire un cliffhanger et donc surtout dans une enquête où tu as besoin de distiller des informations, de faire comprendre des choses au spectateur, et donc du coup il y a une obligation de rythme qui est très stimulante, en fait. C'est-à-dire que là, on s'est dit, OK, donc il faut vraiment qu'on construise un crescendo, et on a plein de matières dans le roman, donc à nous de voir où est-ce qu'on va réutiliser ces éléments, est-ce qu'on les réutilise ou pas, est-ce qu'on les met plus à un endroit qu'à un autre, etc. Et donc, c'est vraiment aussi cette logique-là qui nous a fait aller vers cette adaptation.
Vous avez fait pas mal de repérages dans la région Grand Est pour trouver vraiment le coin paumé dans les Vosges qui vous donnerait vraiment cette sensation de « Ok, là, il peut se passer des trucs chelous. Là, ça peut faire flipper. » Moi, je viens d'Alsace, donc j'ai connu ces coins. Et je vous demande en off où est-ce que vous avez tourné, parce que je pense que je connais la ville où ça a été tourné. Mais ouais, je voulais savoir repérage pour avoir cette ambiance, en fait, vraiment de ruralité, de effectivement ces deux petits coins de la France qui a un charme fou aussi, hein, faut le dire.
Ah mais grave, nous on aime, on aime le cinéma régional, en fait. Vraiment, hein, tu vois, nous. Ça nous fait plus triper de tourner en France qu'aux États-Unis. Donc, on l'a toujours dit, ça, tu vois, justement, parce qu'on se dit, mais attends, il y a tout ce qu'il faut en France, en termes de région, de diversité des paysages et même des légendes rattachées à chaque région. Donc, il y a un vivier incroyable de récits, tu vois, tout est là, en fait. Pas besoin d'aller le chercher à l'autre bout du monde. Et les Vosges, effectivement, c'est une terre, assez de contraste, tu vois, où la campagne est ultra sauvage, avec beaucoup de désertification, de villages un peu abandonnés, etc. Donc, alors, le roman s'y déroulait, hein, tu vois, donc c'est pas nous qui avons décidé de tourner dans les Vosges. Mais en fait, ça nous arrangeait bien parce que nous, on est des coutumiers du festival de Gérard Armé. Ouais. Donc, c'est une région qu'on connaît un petit peu avec Julien. Et à chaque fois qu'on y va, on se dit, waouh, ça sera super de tourner un film là-bas. Donc là, c'était vraiment l'occasion idéale. C'est dire, ah, mais c'est super. Et le sujet nous plaît. En plus, ça se tourne dans une région qu'on aime. Et donc, effectivement, ça en est suivi à partir du moment où on a accepté le projet. Une longue phase de repérage. On est parti 2-3 fois dans les Vosges, vraiment repérer intensément, car on n'avait pas les moyens en termes de budget de construire nos décors en studio. ça coûte énormément d'argent.
Mais j'allais dire justement que là-dessus, c'est plus une liberté, c'est même mieux en fait, non, de tourner justement dans des décors qui sont déjà installés, qu'il faut, évidemment, entre guillemets, juste décorer.
Il fallait juste trouver on a tourné que dans de vrais décors, de vraies maisons intérieures et extérieures, rien n'était reconstruit. Alors ça, c'est des avantages, effectivement, artistiquement, parce que t'as le côté vrai, quoi. Tu vois, où tu peux sortir, rentrer, tu vois que tu rentres pas en studio et que tu es dans la continuité de l'extérieur. Donc, tu vois que c'est des vraies maisons et tout de suite, ça ramène un vrai cachet. Mais ça a aussi certaines contraintes, mais qui sont pas d'ordre, qui sont plus d'ordre de mise en place, de plateau. C'est-à-dire que c'est toujours plus compliqué avec une équipe de faire rentrer une équipe dans une vraie maison. Parce que très vite, on est à 30 dans une petite surface. On est à l'étroit. Et on n'a pas toute la latitude qu'on voudrait en mise en scène, qu'on pourrait avoir en studio. Ou en studio, tu peux bouger les murs comme tu veux. Donc, tu dis, le mur, il me fait chier, enlève-le, puis que tu mets ta caméra. Alors que là, évidemment, tu ne peux pas. Donc, tu dois revoir aussi ta mise en scène en fonction du décor qui te l'impose par lui-même. Donc, c'était une phase, évidemment, ultra importante, le repérage. Donc, et on a eu de la chance parce qu'on a vraiment trouvé toutes les configurations vraiment de maison qu'on voulait. Assez rapidement, en fait, tu vois, sans trop galérer. Donc, et même après le final qui se passe dans un lieu abandonné assez incroyable, qui est assez connu dans le monde de l'urbex, qui s'appelle l'Altenberg. Et là, c'est pareil, c'est dès qu'on l'a visité, parce qu'il faut savoir que dans le livre, tout le final, en fait, se déroule dans un chalet finalement lambda, très classique, dans la cave de ce chalet. Et avec Julien, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment pour le coup, ça, le changer, c'est-à-dire faire une fin dans un lieu beaucoup plus cinématographique. Qu'un simple chalet, parce qu'on venait de passer une heure et demie dans des simples chalets.
Ouais, dans des gens, ouais.
Donc, on s'est dit, ça fait chier d'avoir le climax les 20 dernières minutes donc c'est finalement un décor assez proche de ce qu'on a vu jusque-là. Et donc, on voulait opter pour un truc bigger than life, tu vois, vraiment. C'est un sanatorium abandonné qui est gigantesque, qui est une ville presque une ville en elle-même.
Et en termes de cadrage, de tension, en fait, ça vous permet de faire beaucoup plus de choses aussi, ne serait-ce que sur tous ces couloirs.
Voilà, le décor était tellement ouf. Donc, on a vraiment tourné dedans de nuit et c'était une sacrée ambiance. Tu vois, oui, là, c'est génial. On a fait aucune intervention déco sur l'Altenberg. Tout était déjà là, tu vois. On a juste un peu cliné pour ne pas se tuer sur les clous et les trucs qui dépassaient, mais on était vraiment chanceux. Et ça, c'est la richesse de la région qui nous a permis d'avoir autant de spots possibles pour tourner, quoi.
Et ça, de toute façon, c'est quelque chose qui vous importe tout le temps, en fait, dès que vous faites des films en France, en tout cas, c'est de se rattacher vraiment, que ce soit dans une banlieue, dans des barres d'immeubles ou dans des banlieues un peu pavillonnaires comme dans à l'intérieur. En fait, c'est de rester quand même effectivement dans un paysage que nous, on peut reconnaître en tant que public français et on s'en fiche, en fait, si à l'international, après, les gens s'identifient peut-être moins.
Alors, nous, c'est une vraie volonté parce qu'on a toujours défendu l'idée de faire un cinéma de genre en France, chez nous, de le faire vivre ici, donc avec nos codes, nos références. Je pense que pour l'étranger, c'est pas du tout un frein. Parce que mine de rien, c'est des choses assez universelles. Tu vois, les barres d'immeubles, il y en a partout, il y en a dans toutes les grandes villes du monde. Des campagnes abandonnées, je pense que ça parle aussi à beaucoup de, tu vois, il y a beaucoup de pays qui connaissent ça. Alors évidemment, le décorum n'est pas le même, mais où les banlieues pavillonnaires, tu vois, à l'intérieur, il y a quelque chose de. Enfin, tu vois, ça peut être tout à fait américain. Enfin, regarde, Halloween, tu vois, à Dunfield. Bon, c'est une succession de maisons. Et donc, pour nous, ça relève vraiment plus de ce truc de dire faisons naître le fantastique, l'horreur, l'épouvante dans le contexte le plus identifiable possible et le plus banal. Elle n'en sera que plus forte et que plus renforcée, c'est-à-dire vraiment de se dire putain, nous on a envie de voir ça en tant que spectateur, tout simplement, tu vois. Donc tu fais référence à la barre d'immeuble de Candy Shah. Dans Candy Shah, on se dit putain, incroyable, si on met une légende ancestrale antédiluvienne au milieu d'une cité. Enfin, tu vois, et on adore les mélanges d'univers comme ça, ce qu'on faisait déjà dans Livide aussi, avec le vampirisme et la danse classique. Et donc, on aime bien, en fait, ça part toujours d'une envie de surprendre aussi le spectateur, c'est-à-dire de l'emmener vers des territoires qu'il n'a pas forcément l'habitude de voir. Et donc, à notre petit niveau et humblement, mais en tout cas, de réfléchir, nous, non pas que en tant que metteur en scène, mais aussi en tant que spectateur, et de se dire, tiens, on n'a jamais vu ça. Et moi, j'aimerais voir ça. Et de se dire, est-ce qu'on pourrait payer une place de cinéma pour aller voir un truc pareil? Et donc, et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on se dit, putain, faisons un thriller hyper ambitieux avec de l'action, avec du suspense, mais on le met dans les Vosges. Tu vois, et il y a un truc aussi qui est assez excitant pour nous de dire, bah oui, on va traiter ce territoire comme vraiment ce qu'il peut représenter, c'est-à-dire une terre de légende, de mystère, et avec cette prédominance de la nature et ce côté très mélancolique des villages à l'abandon. Et donc, il y a un potentiel cinématographique énorme dans l'environnement quotidien, en fait. Et donc, et on n'invente rien, en vrai. Enfin, tu vois, c'est faire naître le fantastique d'un des films qui commence, tu vois, très tranquillement, sur un canevas assez classique, et puis d'un coup qui vire dans soit l'horreur, soit le fantastique. Il y en a plein. Enfin, tu vois, je parlais d'Halloween, mais de Morse, il y en a des centaines et des centaines. Donc, mais en tout cas, voilà, nous, on l'adapte à chez nous.
Est-ce que vous avez, pas forcément des modèles, mais est-ce que ça vous arrive de regarder d'autres films peut-être dans le même registre avant de vous lancer pour, pas forcément avoir des inspirations, mais parce que, dans le polar vraiment très sombre, il me semble que les Rivières Pourpres cités dans le dossier de presse, mais moi je pense aussi à des films venus un peu de Belgique comme Les Ardennes ou La Bête, qui en plus ont des thématiques en commun avec le Mangeur d'âme. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites en général avant de vous lancer.
Bah oui et non, c'est à dire que on n'est pas forcément là à rechercher tous les films sur la même thématique et à se les goinfrer, tu vois, pour pas trop se laisser influencer non plus,
ou justement pour avoir des pistes à ne pas reproduire et faire différent. Mais
ouais, c'est vrai, mais en tout cas pour le coup sur le Mangeur d'âme, tu vois, notre référence, donc comme tu l'as dit, c'était une référence totalement avouée, c'était les Rivières Pourpres, parce que nous on adore Mathieu Kassovitz en tant que réalisateur, hein. C'est un mec qu'on adore, avec qui on a grandi, donc tous les films sont à chaque fois étaient des événements, et les Rivières, c'est un film qui nous a vraiment marqué au point qu'on, presque sur tous nos films, on l'a cité en fait comme référence à un moment ou un autre, peut-être pas pour l'ensemble du film, mais pour une scène en particulier ou des choses comme ça. Donc, et là, pour le coup, c'était vraiment assumé, c'est-à-dire voilà un thriller qui braconne un peu aussi sur les terres du fantastique. Tu vois, il y a un petit côté léger, hein, dans les Rivières, mais quand même qui est là sur ce que c'est, ce qu'on est, voilà, et avec un vrai côté action, un vrai côté entertainment tourné vers le public, tout en évoquant un sujet ultra glauque. Chez Kassovitz, c'était l'eugénisme. Chez nous, bon, on ne dira pas ce que c'est pour ne pas spoiler les spectateurs qui nous écouteraient, mais les Rivières, c'était vraiment ça, c'était dire comment faire un film vraiment divertissant autour d'un sujet finalement qui ne l'est pas du tout, et tout en s'ancrant dans une réalité française, parce que les Rivières, ça se passe, je crois que c'est dans les Alpes, hein, si je ne fais pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et donc, toi, tu as un côté vraiment franco-français avec les gendarmes, etc. Et nous, on adorait ça, quoi.
C'est vraiment que les montagnes, à chaque fois, c'est
mine de rien, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi le côté montagnard, hein. Évidemment, ça a dû jouer, tu vois, même si les Vosges, c'est pas du tout le même délire que les Alpes ou les Pyrénées, on est sur la moyenne montagne, hein, tu vois, c'est pas du tout le même genre de paysage finalement, mais justement ça a rapporté une petite touche en plus, parce qu'on a peut-être plus l'habitude de voir les Alpes, les Pyrénées, des choses comme ça, plutôt que des paysages un peu, tu vois, une sorte d'entre-deux que proposent les Vosges, quoi.
Justement, tu vous parliez aussi de sujets qui sont pas marrants du tout. Le Mangeur d'âme ne l'est pas. Et mais vous mettez aussi dans le dossier que vous avez retiré de la violence et du gore, en fait. Et je voulais savoir, en fait, pourquoi, puisque c'est quand même un petit peu ça qu'on peut attendre de vous, vu votre parcours, ou en tout cas ce qu'à titre personnel, moi j'attends beaucoup. Mais c'est ça, c'est comment vous gérez en fait les éléments d'horreur et de graphisme qui sont vraiment propres aussi à vos univers par rapport au cadre plus d'enquête actionneur qui est le matériel de base.
En fait, c'est notre ADN, donc évidemment on vient du cinéma d'épouvante, du cinéma horrifique, naturellement c'est ce vers quoi on tend, quelle que soit donc l'histoire qu'on raconte. Et donc là, on a filmé des choses qui nous paraissaient nous pertinentes à l'écriture et qui était très bien. Enfin, tu vois, on a fait des scènes de cauchemar, des scènes plus gore, des choses un petit peu plus, tu vois, du genre du registre de la mécanique du film d'horreur, c'est-à-dire avec des jumpscares, enfin tu vois, genre voilà.
À la Jason Bourne, vous disiez dans...
Ouais, alors oui, c'est devenu presque une expression, mais non. Et en fait, le truc, c'est que on adorait ce qu'on avait fait, on trouvait ça très cool. Mais c'est à l'étape du montage où ça a évolué, c'est-à-dire que on les a montés. Et puis, à l'épreuve des jours et des semaines, et sous le regard aussi extérieur de notre chef monteur, Baxter, donc qui nous accompagne depuis nos débuts, qui nous a pointé du doigt une évidence qui était que c'était pas un film d'horreur et que c'était vraiment un thriller, c'était vraiment un polar. Et à mettre trop d'éléments horrifiques, en fait, on installait chez le spectateur des attentes, on le mettait dans un état d'esprit film d'horreur. Or, là, on a vraiment une enquête avec, voilà, on distille des indices et on perd finalement l'impact viscéral d'une scène horrifique s'il y en a trop. Et surtout dans ce type de film. Ça doit rester à des moments bien précis. Et donc, ça a été aussi le défi. Et on s'est rendu compte que, notamment, des choses qui nous paraissaient donc instinctivement fonctionner, et qui fonctionnaient d'ailleurs, puisque quand on le montrait, les gens sursautaient, ils étaient vraiment dans le truc. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'était à plusieurs moments au détriment de l'émotion. Et donc on s'est dit tout simplement qu'est-ce qu'on veut vraiment raconter, quoi. Et donc on s'est dit sur ce film là c'est pas un tour de train fantôme, tu vois, où on veut que les gens s'éclatent à regarder le film et crient dans la salle, et que c'est vraiment, on veut installer une ambiance. Et donc pour installer une ambiance, il faut qu'on soit avec des personnages qui nous touchent, il faut qu'on mette pas le spectateur en position de OK, j'attends le prochain jump, je suis dans une position de je regarde un film d'horreur en fait, et je m'accroche à mon fauteuil. Non, nous on voulait quelque chose de beaucoup plus insidieux, on voulait créer un film d'ambiance, vraiment que les gens soient mal à l'aise et que la violence fasse mal. Et que, comme dans la vraie vie en fait, c'est-à-dire que quand on voit un cadavre, on fasse vraiment OK, c'est dur. Et donc, du coup, on a décidé d'enlever les effets et d'épurer et d'arriver plus sur des choses très froides et, tu vois, très presque, alors pas clinique, hein, parce que on s'amuse aussi. Et donc, et notre approche du gore, elle est toujours démonstrative. Il y a quelque chose donc où on a envie de montrer les choses. Et donc, et à ce titre-là, par exemple, on a une scène qui dévoile ce qui s'est passé dans la scène d'introduction où on découvre juste des cadavres.
Donc, il est le grand moment, on peut dire. Enfin, je pense que c'est une scène qui va marquer beaucoup de monde et qui a peut-être aussi demandé beaucoup de préparation. Enfin, de la façon dont c'est filmé, et où là, on sent effectivement qu'il y a il y a une bascule aussi, vraiment, et peut-être qu'on vous reconnaît plus en fait là-dedans.
Ah, mais ils étaient là. Non, en fait, ça relève de la gestion de la tension, c'est-à-dire que nous on s'est dit ça sera un vrai payoff, parce que on démarre le film sur un résultat, et pendant tout le film on est sur des gens qui parlent de ça en disant mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, comment on peut en arriver là, c'est pas logique, ça tient pas debout, etc. Et donc le fait de le montrer, ça, c'était pas dans le roman, tu vois. C'était quelque chose vraiment qu'on a apporté, nous, en disant à ce moment-là, on peut pas, pendant tout le film, parler d'un truc et ne jamais le montrer. C'est la même logique qu'à l'intérieur, tu vois, où il y a des gens qui nous ont dit, tu vois, mais enfin, pourquoi vous allez jusqu'à ouvrir le ventre d'une femme enceinte à la fin? On avait compris, c'est pas la peine. Il y a des gens qui ont été choqués par ça, à juste titre. Enfin, tu vois, c'était le but du film aussi. Mais c'était pour nous un peu se renier, c'est-à-dire qu'on dit, attends, on est en train de vendre au spectateur un film sur une femme enceinte qui va se faire, on la traque pour lui voler son enfant encore à naître et tout. Et t'as pas à la fin, tu vois, il y a un petit côté frustrant. Donc, c'est possible, hein, tu vois, mais tu rentres dans le genre thriller, quoi, tu vois, t'es plus sur la main sur le berceau, ce genre de choses. Et donc, c'est possible, mais nous, c'est pas ce qu'on avait envie de faire. Et là, c'est pareil, tu vois, on s'est dit, il faut qu'on récompense le spectateur et en même temps, eh ben, ça permet d'amener aussi un niveau de d'horreur qui est crescendo, tu vois, c'est-à-dire que voilà, on va amener des éléments petit à petit et là c'est un peu voilà, c'est la fin, c'est le payoff, quoi.
Un gros payoff. Justement, en termes de payoff, parce que c'est difficile de faire une fin à cette histoire, puisque sans spoiler, on n'est vraiment pas dans du happy ending non plus. Pour moi, il y a une forme de conclusion très radicale, que ce soit dans la forme et dans le fond, où on va dire que l'intrigue est résolue, mais nos personnages, on les laisse dans un état absolument épouvantable, je pense. Est-ce que ça aussi c'est compliqué à imaginer, ou est-ce que c'était assez simple pour vous à la fois de l'avoir en tête et après de le filmer pour...
Bah, pour le coup là c'était la fin du livre.
Ouais, c'est comme là vous n'avez pas changé,
elle
alors était, okay.
Elle est, on l'a un peu accentué dans la noirceur, honnêtement. C'est-à-dire que dans la fin du livre, c'est difficile hein, d'en parler non, sans spoiler, vraiment trop que... spoiler, mais c'était un peu moins noir.
Ok.
Tu vois, surtout sur la destinée
de Franck.
Du personnage de Franck. J'ai envie de t'en dire plus, mais
c'est j'ai envie de dire, on peut mettre une balise spoiler, s'il vous plaît. Voilà, c'est la fin de l'émission
pas,
de toute façon.
Si vous voulez pas vous faire
sur
spoiler.
Sur les dernières questions.
Voilà, donc nous, à la fin du roman et aussi de la première version du scénario, en fait, Franck se rendait aux flics.
Okay.
C'est-à-dire qu'il était arrêté pour avoir usurpé l'identité d'un gendarme. Et lui, ils s'en foutaient parce que voilà, et ça y est, sa vengeance était accomplie. Et donc, il se faisait arrêter en paix devant...
Parce qu'une forme de rédemption quand même pour
voilà,
avoir
dit, bon,
un
voilà,
peu mal agi.
Bon, maintenant, j'ai mal agi. Voilà, je veux bien aller en taule. Et le mec partait comme ça, menotte au poignet en disant pas de problème. Et nous, en fait, ça nous faisait chier parce que nous, on voulait vraiment... Parce que du coup, ça faisait revenir plein de personnages, dont des flics qui venaient l'arrêter, etc. Les légistes qui revenaient. Alors qu'on était sur quelque chose de très intime avant. C'est-à-dire, c'était bizarre de faire revenir tout ce monde à la fin. Et nous, on se dit non, on s'en fout. Nous, on veut finir vraiment qu'avec nos personnages, avec le doyen et Paul. Tu vois, on n'a pas besoin de faire revenir toute la Smala, là, pour en plus lui foutre les bracelets. Et donc, on a, nous, imaginé cette fin beaucoup plus intime, beaucoup plus nihiliste, en fait, où le mec, en fait, bah, ça, oui, il a eu sa vengeance.
Je sais pas si vous avez vu J'ai rencontré le diable ou pas.
Bien sûr.
Ouais, parce que pour moi, c'est pour. Enfin, l'écho était évident, quoi, là-dessus. Mais...
Et bah, c'est vrai qu'on n'a pas repensé à ce film-là, mais t'as raison, ouais.
C'est vraiment que l'histoire est finie, mais que le personnage sera brisé à jamais quand même.
Bah,
quoi,
c'est le cas, tu vois. Sûr. Donc, on s'est dit, comment un personnage pareil, donc qui a perdu son enfant, dans des conditions
épouvantables,
peut se relever, en fait, peut faire autre chose que non, bah non, pour nous, en fait, voilà, à la fin, il part, il disparaît dans les ténèbres. Il le dit, je suis qu'un fantôme. Il n'est plus rien maintenant, il n'a plus de raison de vivre. Parce que la seule raison de vivre qu'il avait, c'était de trouver la vérité. Et maintenant qu'il l'a trouvé, pour nous, il part se suicider, quoi. Et il disparaît. Ouais. Tu vois, on aurait même à un moment, on s'était dit, est-ce qu'on rajoute une détonation loin du mec qui va se tirer une balle, tu vois. Donc, on a préféré rester quand même énigmatique sur la toute fin, mais ça, c'était clairement notre petite touche, parce qu'avec Julien, c'est ce qu'on aime aussi dans notre cinéma, dans le cinéma qu'on fait, c'est ne pas sombrer dans le happy end. Systématique, même si on estime que certains de nos films se finissent bien, mais entre guillemets, mais à notre façon, pour nous, la fin d'un intérieur est une happy end, parce que la méchante qui est l'héroïne gagne.
Famille, ouais, c'est ça. Mais...
Tu vois, voilà, elle a ce qu'elle voulait. Donc, voilà, c'est un point de vue, hein. Mais on aime les fins, en tout cas.
Puis le gamin qui retrouve sa sœur dans...
Voilà, dans Candy Shy, au prix de sa vie, hein, parce qu'il s'est ouvert toutes les veines, mais Mais ça, c'est ce genre de fin qu'on adore, en fait. Donc, celle-là, on l'a un peu retravaillée dans cette façon-là pour pas que ça fasse trop non plus fin de film normal policier, tu vois. On était plus aussi, hein, pour être honnête aussi, c'est vrai, parce que c'est une référence écrasante et absolue sur Seven aussi, évidemment. Mmh. Tu vois, où t'as le personnage de Brad Pitt à la fin, tu te dis, mais le mec, il est hagard, et tu vois, tu sens qu'il va être interné, quoi. Tu vois, il va pas reprendre dans deux semaines, il va pas se faire des RTT de... Et après, il dit, bon, ça va mieux, là, je vais reprendre des enquêtes.
T'as fait quoi
avec
ce week-end?
Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'il est complètement, il est comme ça, là, il est hagard, et tu sens que le mec est mort. Et c'était un peu cette volonté-là, tu vois, d'aller sur le nihilisme extrême du truc, quoi.
Et vous aviez des interrogations un petit peu juste sur la classification, parce qu'on sait que ça reste important en France. Et, alors, je sais pas, je sais qu'il a un moins de 12, je sais pas s'il aura un supplément avertissement en
plus.
Il
a un avertissement.
Ouais, parce que. Ouais.
Mais franchement, on est super heureux d'avoir un moins de 12 ans, parce que moi, je. Toute la prépa, même le tournage, j'étais là à dire aux producteurs, aux distributeurs, les gars, on va être moins de 16. Hein.
Parce que vu la thématique, quoi.
Bah ouais.
Extrêmement sombre.
Mais là, c'est moins de 12. Écoute, tant mieux pour nous. Mais c'est à chaque fois, c'est une sorte de loterie où tu sais pas. Tu sais, il y a la jurisprudence John Rambo, comme on dit dans le milieu. C'est-à-dire que, je sais pas si tu viens de Rambo 4, pas le dernier The Last Blood, tu vois, celui d'avant, qui est ultra gore. Où t'as un massacre de civils dans un village, où tu vois les gens passer à la, les gamins passer à la baïonnette, cramés, puis à la fin, c'est un carnage où t'as 50 corps explosés à la mitrailleuse. Et le film est moins de 12. Tu vois, c'est une violence réaliste, hein, c'est une violence par arme à feu. Et donc, tout le monde pensait que ce film allait être moins de 16. Il est moins de 12, et tu fais, mais what the fuck, comment ça se fait que c'est moins de 12? Donc, du coup, à chaque fois, maintenant qu'on passe devant Ascension, on se dit, mais attends, il y aura peut-être la jurisprudence Rambo et on va peut-être avoir moins que prévu. Et des fois, c'est dans le, ça peut essayer d'être dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu penses être moins de 12 et tu te retrouves avec un moins de 16, ce qui nous est pas arrivé, hein, mais à part sur l'intérieur, bien sûr.
Sur l'intérieur quand même.
Ouais, l'intérieur, c'était spécial. On a frôlé le moins de 18 même.
Oui, bah oui. Tu vois, ouais, vous l'avez cherché. Mais justement, c'est ma question d'ouverture. Mais sur le fait que, puisque, ben, quand je le disais dans l'intro, je suis un énorme mordu de films d'horreur et de ce qui était vraiment de ce qui est extrême, vraiment. Et c'est la question que je voulais vous poser par rapport aux gens et au développement, comment ça se développe maintenant en France. Il y a toujours un très beau cinéma de genre, je trouve, et dont vous faites partie des représentants. Mais est-ce que vous pensez qu'à l'intérieur peut se refaire aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que sur justement cette vague extrême qu'on a eu dans les années 2000, sans être passéiste ou nostalgique, mais c'est vraiment la question, c'est est-ce que vous pensez que vous pourrez refaire à l'intérieur aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous pourrez refaire un film aussi hardcore pour prochainement?
Bon, on peut toujours essayer.
Quand vous le revoyez, ce que vous dites, ah ouais, quand même, putain, l'aiguille dans le cou,
c'est le défaut qui nous saute à la gueule, qui nous.
On se dit qu'on le referait pas de la même manière.
Ah, on le referait mieux.
On a plus d'expérience maintenant. C'était un film vraiment. Qui était très guerriero. le refaire aujourd'hui, je sais pas, je pense que c'est pas impossible, mais dans des conditions qui seraient, je pense, sensiblement les mêmes qu'à l'époque. Il faut tout simplement de la volonté de production. Enfin, tu vois, nous on est toujours tributaire de ça. Donc à l'époque, on a eu de la chance. Ça a été un alignement de planètes assez incroyable, puisque Canal+ ouvrait la case des French Frayeurs et cherchait ce type de film. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, peut-être que c'est plus les plateformes qui iraient vers des trucs, genre en essayant de créer un événement, j'en sais rien, mais en même temps, on voit pas ce genre de film non plus, des films extrêmes, des films hardcore.
En France, je parle. C'est Terrifier.
Non, bien sûr. Non.
Terrifier 2.
Évidemment.
Ouais, mais c'est ça. Bah, justement, ouais, c'est ça. C'est...
Non, je parle que.
Même moi, j'ai fait wow.
Je parle que en France.
Je suis trop vieux.
Et c'est pour ça que je parle de système de financement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une volonté. Tu vois, Terrifier, c'est un tout petit film. Enfin, en tout cas, le premier est un tout petit film. Je sais pas. Ouais. En tout cas, il y en a pas là, le genre français est plutôt en train d'aller vers quelque chose d'un peu plus consensuel, d'un peu plus ce qui est très intéressant aussi, hein, tu vois, mais en tout cas qui est pas qui est loin de ce qui nous motivait quand on était débutant, tu vois, quand on a fait à l'intérieur où on avait plus envie de faire Maniac, tu vois. Ouais. C'était plus Bill Lustig qui nous, tu vois, qui nous inspirait. Donc je sais pas. Après nous, voilà, nous on explore des registres en permanence qui nous semblent être des registres différents, tu vois. On part vers des films qui vont nous stimuler en tant que metteur en scène. Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que ça nous titille régulièrement de revenir vers un film sans concession, ultra ultra vénère, ultra violent. On a de ça, on a des idées. Voilà. Maintenant, je cache pas qu'effectivement c'est maintenant devenu peut-être plus simple à l'étranger. Enfin, tu vois, en tout cas aux États-Unis, on a plus de possibilités de le faire aux États-Unis qu'en France. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot en conclusion sur ce qui chuchote? C'est dans votre dossier de fraise. J'invente un, je suis pas allé fouiner là où il faut ou pas quoi. Mais genre, c'est la partie sur la boîte de production. Ah oui, personne ne lit, mais
oui c'est vrai.
Bon, alors déjà, ce sera pas ce titre.
Ok.
Non, c'est un titre de travail. Écoute, ouais, c'est un projet qu'on développe avec Fabrice Lambeau, donc notre producteur là, avec qui donc on a fait Le Mangeur d'âme. Sur Victor Hugo. Sur Victor Hugo, en fait, qui faut le savoir, était passionné d'occultisme et totalement possédé par la mode des tables tournantes à l'époque. Donc Hugo, il a été exilé sur Jersey. Et lors de son exil, en fait, il s'est adonné donc aux tables tournantes, dans l'espoir secret de reparler avec sa fille Léopoldine, morte à 20 ans, noyée dans la Seine. C'était le trauma de sa vie, la perte de sa fille. Et donc, il en a tiré un livre donc, qui s'appelle Le Livre des Tables, qui est un livre où il parle, où il retranscrit tous les dialogues qu'il a avec l'au-delà, qui sont assez marrants, parce que le mec, il parle à Jules César, il parle à tout le monde, à Dieu, même à des concepts, il parle à la liberté... Tu vois, ça, le livre est ouf. Et en fait, nous, on est parti de ce postulat de départ de donc Hugo en exil à Jersey. En exil à Jersey.
Je sens que c'est la fin de de longues interviews
qui
du matin.
Qui s'adonne aux tables. Et en fait, pour en faire un vrai film de fantôme gothique, dans l'esprit des autres, des innocents, etc., qui est tout un pan de cinéma qui nous passionne avec Julien, tu vois, très, très classique. Donc, c'est un film de fantômes victorien avec Victor Hugo contre les fantômes.
Très bien, ok. Bah, très hâte de voir ça, quel que soit le titre trouvé. Bah, Julien, ouais. Alexandre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant tout simplement sur les réseaux sociaux. Puis, allez voir Le Mangeur d'âme tant qu'il est au cinéma. Merci à tous de nous avoir écoutés. Peut-être à bientôt.
À bientôt.